Chapitre 4. Winston regarda dans la petite pièce miteuse au-dessus de la boutique de M. Charrington. À côté de la fenêtre, l'énorme lit était fait, avec des couvertures en loques et un traversin sans couverture. L'horloge ancienne avec son cadran de 12 heures faisait tic-tac sur la cheminée. Dans le coin, sur la table du portillon, le presse-papier en verre qu'il avait acheté lors de sa dernière visite brillait doucement dans la demi-obscurité. Dans un coin se trouvait un poêle à huile en tôle martelée, une casserole et 2 tasses fournies par M. Charrington. Winston alluma le brûleur et mit une casserole d'eau à bouillir. Il avait apporté une enveloppe remplie de café de la Victoire et des comprimés de saccharine. Les aiguilles de l'horloge indiquaient 19h20. Elle devait arriver à 19h30. Folie. Folie, ne cessait de dire son cœur, conscient, gratuit, la folie suicidaire. De tous les crimes qu'un membre du parti pouvait commettre, celui-ci était le moins possible à dissimuler. En fait, l'idée lui était d'abord venue sous la forme d'une vision, du presse-papier en verre réfléchi par la surface de la table. Comme il l'avait prévu, M. Charrington n'a eu aucune difficulté à louer la chambre. Il était évidemment heureux des quelques dollars que cela lui rapporterait. Il ne fut pas non plus choqué et ne se montra pas offensé quand il fut entendu que Winston désirait la chambre pour des rendez-vous amoureux. Au lieu de cela, il regarda à mi-distance et parlait en général avec un air si délicat qu'il donnait l'impression qu'il était devenu en partie invisible. L'intimité, disait-il, était une chose très précieuse. Tout le monde voulait un endroit où il pourrait être seul à l'occasion. Et quand on avait un tel endroit, c'était une courtoisie naturelle pour qui le savait que de le garder pour soi. Il ajouta même, avec presque l'air de s'effacer et de cesser d'exister, qu'il y avait 2 entrées à la maison, dont l'une par la cour de derrière qui donnait sur une allée. Sous la fenêtre, quelqu'un chantait. Winston regarda bien à l'abri du rideau de mousseline. Le soleil de juin était encore haut dans le ciel. Et dans la cour d'en bas, une femme monstrueuse, solide comme un pilier normand, avec des avant-bras rouges musclés et un tablier en toile de sac attaché à sa taille, se tenait à peu près en son milieu, faisant des allers et retours entre une bassine et une corde à linge, en traçant une série de carrés blancs, des choses que Winston reconnut comme étant des couches pour bébé. Chaque fois que sa bouche n'était pas fermée avec des pinces à linge, elle chantait dans un contralto puissant. Ce n'était qu'un rêve sans espoir, il passa comme un soir d'avril un soir, mais un regard, un mot, les rêves ont recommencé, ils ont pris mon cœur, ils l'ont emporté. Cette chanson hantait Londres depuis 2 semaines. Elle était l'une des innombrables chansons similaires publiées au profit des prolétaires par une sous-section du département de la musique. Les paroles de ces chansons ont été composées sans aucune intervention humaine sur un instrument connu sous le nom de versificateur. Mais la femme chantait si bien qu'elle transformait cette immondice en une mélodie presque agréable. Il pouvait entendre la femme chanter et le crissement de ses chaussures sur le pavé, et les cris des enfants dans la rue, et quelque part au loin, un faible grondement de circulation. Et pourtant, la salle semblait curieusement silencieuse grâce à l'absence de télécran. Folie, 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 pensa-t-il encore. Il était inconcevable qu'il puisse fréquenter cet endroit pendant plus de quelques semaines sans être pris. Mais la tentation d'avoir une cachette qui leur était vraiment propre, sous un toit et à portée de main, avait été trop forte pour eux deux. Depuis un certain temps, après leur visite au clocher de l'église, il avait été impossible d'organiser des rencontres. Les horaires de travail avaient drastiquement augmenté en prévision de la semaine de la haine. Elle n'aurait lieu que dans plus d'un mois, mais les préparatifs grandioses et compliqués qu'elle exigeait entraînaient pour tout le monde un surcroît de travail. Finalement, tous deux ont réussi à obtenir un après-midi libre le même jour. Ils avaient accepté de retourner à la clairière dans le bois. La veille au soir, ils se sont rencontrés brièvement dans la rue. Comme d'habitude, Winston regardait à peine Julia, tandis qu'il se laissait emporter par la foule. Mais le bref coup d'œil qu'il lui jeta lui apprit qu'elle était plus pâle que de coutume. « Tout est annulé, » murmura-t-elle dès qu'elle jugea pouvoir parler sans risque. « Demain, je veux dire.
Quoi ?»«
Demain après-midi. Je ne peux pas venir. »«
Pourquoi pas ?»«
Oh, la raison habituelle. Ça a commencé plus tôt cette fois. » Pendant un moment, il fut violemment en colère. Pendant ce mois de fréquentation, la nature de son sentiment pour elle avait changé. Au début, il n'y avait guère de véritable sensualité. Leur première fois n'était qu'un simple acte de volonté, mais après la deuxième, c'était différent. L'odeur de ses cheveux, le goût de sa bouche, la sensation de sa peau semblaient être entrés en lui, ou dans l'air tout autour de lui. C'était devenu une nécessité physique, quelque chose qu'il ne voulait pas seulement, mais qu'il estimait avoir le droit de faire. Quand elle dit qu'elle ne pouvait pas venir, il avait le sentiment qu'elle le trompait. Mais juste à cet instant, la foule les poussa l'un contre l'autre et leurs mains se rencontrèrent par hasard. Elle donna du bout de ses doigts une pression rapide qui semblait inviter non pas au désir, mais à l'affection. L'idée vint à Winston que, lorsqu'on vivait avec une femme, ce désappointement périodique était un événement normal. Une profonde tendresse qu'il n'avait pas encore ressentie pour elle s'empara de lui. Il souhaitait qu'ils fussent un couple marié depuis 10 ans. Il souhaitait qu'il se promenât dans les rues avec elle, comme ils le font maintenant, mais ouvertement et sans crainte, en parlant de banalité et en achetant des bricoles pour le ménage. Il souhaitait avant tout qu'ils aient un lieu où ils pourraient être seuls, ensemble, sans se sentir obligés de faire l'amour à chaque fois qu'ils se rencontrent. Ce ne fut pas réellement à cet instant, mais à un moment du jour suivant, que l'idée lui vint de louer la chambre de M. Charrington. Lorsqu'il suggéra l'idée à Julia, elle accepta avec un empressement inattendu. Tous deux savaient que c'était de la folie. C'était comme s'ils s'étaient intentionnellement rapprochés de leur tombe. Alors qu'il attendait au bord du lit, il pensa encore aux caves du ministère de l'amour. Il était curieux de voir comment le rythme suivant lequel l'horrible destinée à laquelle ils étaient voués entrait dans la conscience et en sortait. Il était là, fixé dans le futur, précédant la mort aussi sûrement que 99 précède 100. On ne pourrait pas l'éviter, mais on pourrait peut-être le reporter. Et pourtant, il arrivait que l'on choisisse par un acte conscient, volontaire, d'écourter l'intervalle par lequel on en était séparé. À ce moment, il y eut des pas rapides dans les escaliers. Julia fit irruption dans la pièce. Elle portait un sac à outils de grosse toile brune, dont il l'avait vu chargé maintes fois dans les bâtiments du ministère. Il commença à la prendre dans ses bras, mais elle se dégagea assez rapidement, en partie parce qu'elle tenait encore le sac à outils. « Une demi-seconde, » dit-elle. « Laisse-moi te montrer ce que j'ai apporté. As-tu apporté un peu de ce café de la victoire dégoûtant ? Je pensais que tu l'aurais fait. Tu peux le jeter parce que nous n'en aurons pas besoin. Regarde ça. » Elle s'agenouilla, ouvrit le sac et fit tomber quelques clés anglaises et un tournevis qui remplissait la partie supérieure de celui-ci. En dessous, il y avait un certain nombre de paquets de papier bien rangés. Le premier paquet qu'elle passa à Winston provoqua une étrange sensation, mais un sentiment vaguement familier. Il était rempli d'une sorte de substance lourde, semblable à du sable, qui cédait quand on y touchait. « Ce n'est pas du sucre, » dit-il. « Du vrai sucre. Pas de la saccharine, du sucre. Et voici un pain. Du pain blanc, pas notre foutu pain. Et un petit pot de confiture. Et voici une boîte de lait. Mais regarde, c'est celui dont je suis vraiment fier. J'ai dû l'envelopper d'un bout de toile à sac parce que... » Mais elle n'avait pas besoin de lui dire pourquoi elle l'avait enveloppé. L'odeur remplissait déjà la pièce, une riche odeur chaude qui semblait être une émanation de sa petite enfance, mais que l'on rencontrait encore de temps en temps. Parfois, avant le claquement d'une porte, il se répandait dans un passage, parfois il se diffusait mystérieusement dans la foule, On le respirait un instant, puis on le perdait. « C'est du café, » murmura-t-il, « du vrai café. C'est le café de la fête intérieure, il y en a 1 kilo entier ici. Comment as-tu réussi à mettre la main sur toutes ces choses ? Ce sont toutes des victuailles du parti intérieur. Ils ne sont privés de rien, ces porcs, de rien. Mais naturellement, les garçons, les serviteurs, les gens chipent des choses et... Vois, j'ai aussi un petit paquet de thé. » Winston s'était accroupi à côté d'elle. Il déchira un coin du paquet. C'est du vrai thé, pas des feuilles de mûr. Il y a eu beaucoup de thé ces derniers temps. Ils ont capturé l'Inde ou quelque chose comme ça, dit-elle vaguement. Mais écoute, mon chéri, je veux que tu me tournes le dos pendant 3 minutes. Va t'asseoir de l'autre côté du lit. Ne t'approche pas trop de la fenêtre. Et ne te retourne pas avant que je te le dise. Winston regardait abstraitement à travers le rideau de mousseline. Dans la cour, la femme au bras rouge faisait encore des allées-venues entre le lavabo et la corde à linge. Elle prit 2 pinces à linge de sa bouche et chanta avec un sentiment profond. On dit que le temps guérit toute blessure, on dit que l'on peut toujours oublier. Mais la vie est toujours là et tout le temps qu'elle dure, par la joie ou par les pleurs, toujours mon cœur est travaillé. Elle semblait connaître par cœur toute la rengaine. Sa voix flottait avec le doux air de l'été, très mélodieuse, chargée d'une sorte de mélancolie heureuse. On avait le sentiment qu'elle aurait été parfaitement satisfaite si la soirée de juin avait été interminable, et la réserve de vêtements inépuisable, pour y rester pendant 1000 ans, à étendre des couches et à chanter des idioties. Winston fut frappé par le fait étrange qu'il n'avait jamais entendu chanter, seul et spontanément, un membre du parti. Cela aurait même semblé légèrement peu orthodoxe, une excentricité dangereuse, comme si on se parlait à soi-même. Peut-être était-ce seulement quand les gens étaient au bord de la famine qu'ils avaient quelque chose à chanter. « Tu peux te retourner maintenant », a déclaré Julia. Il s'est retourné, et pendant 1 seconde, il faillit ne pas la reconnaître. Ce qu'il attendait en fait, c'était de la voir nue. Mais elle n'était pas nue. La transformation était beaucoup plus surprenante que cela. Elle s'était maquillée le visage. Elle dut se glisser dans un magasin du quartier prolétarien, et s'acheter un ensemble complet de maquillage. Ses lèvres étaient profondément rougies, ses joues étaient fardées, son nez poudré. Il y avait même eu un trait sous les yeux pour les rendre plus lumineux. Ce n'était pas très habile, mais les normes de Winston en la matière n'étaient pas très élevées. Il n'avait jamais vu ou imaginé une femme du parti avec des cosmétiques sur le visage. L'amélioration de son apparence était surprenante. Avec seulement quelques touches de couleur aux bons endroits, elle était devenue non seulement beaucoup plus jolie, mais surtout beaucoup plus féminine. Ses cheveux courts et sa salopette de garçon n'ont fait qu'ajouter à l'effet. Quand il la prit dans ses bras, une vague de parfum de violette synthétique lui vint aux narines. Il se souvint de la pénombre d'une cuisine en sous-sol et de la bouche caverneuse d'une femme. C'était le même parfum qu'elle avait utilisé. Mais pour le moment, cela ne semble pas avoir d'importance. Et il dit, du parfum aussi. Oui, mon chéri, du parfum aussi. Et tu sais ce que je vais faire ensuite? Je vais mettre la main sur une vraie robe de femme et la porter à la place de ces saloperies de pantalons. Je porterai des bas de soie et des chaussures à talons hauts. Dans cette pièce, je suis une femme et non une camarade du parti. » Ils se déshabillèrent et grimpèrent dans l'immense lit en acajou. C'était la première fois qu'il était lui-même nu en sa présence. Jusqu'à présent, il était trop honteux de son corps pâle et maigre, avec ses varices qui se détachaient sur ses mollets et la décoloration de sa cheville. Il n'y avait pas de drap, mais la couverture sur laquelle ils s'étendirent était élimée et lisse. Les dimensions et l'élasticité du lit les étonnèrent tous deux. « C'est sûr qu'il doit être plein de bestioles, mais on s'en fout, » déclara Julia. On ne voyait jamais de lit double de nos jours, sauf dans les maisons des prolétaires. Winston avait occasionnellement dormi dans un de ces lits dans son enfance. Julia n'y était jamais allée auparavant, d'aussi loin qu'elle s'en souvienne. Ils se sont endormis pendant un petit moment. Quand Winston se réveilla, les aiguilles de l'horloge avaient tourné et indiquaient près de 9 heures. Il ne bougea pas, car Julia avait sa tête dans le creux de son bras. La plupart de son maquillage avait déteint sur son visage ou sur le traversin, mais une légère teinte rouge faisait encore ressortir la beauté de sa pommette. Un rayon jaune du soleil couchant tombait au pied du lit et éclairait la cheminée où l'eau bouillait intensément dans la casserole. Dans la cour, la femme s'était arrêtée de chanter, mais de faibles cris d'enfants s'échappaient de la rue. Winston se demanda vaguement si, dans le passé aboli, il était normal de s'allonger dans un lit comme celui-ci, à la fraîcheur d'un soir d'été, un homme et une femme sans vêtements, faisant l'amour quand ils le voulaient, parlant de ce qu'ils choisissaient, ne ressentant aucune injonction à se lever, simplement allongé là, et écoutant des sons paisibles à l'extérieur. Sûrement, il n'y avait jamais eu une époque où cela semblait ordinaire. Julia se réveilla, se frotta les yeux et se releva sur son coude pour regarder le poêle à pétrole. « La moitié de cette eau s'est évaporée, » dit-elle. « Je vais me lever et faire du café. Nous avons 1 heure. À quelle heure s'éteignent les lumières de ton appartement ? » « 23h30. À mon foyer, c'est à 23h. Mais tu dois rentrer plus tôt que ça parce que... Ah, sors de là, sale bête !» Elle se tourna dans le lit, attrapa un soulier sur le parquet et le lança avec violence dans un angle de la pièce, d'une détente brusque et juvénile du bras, exactement comme il l'avait vu un matin lancer le dictionnaire contre Goldstein pendant les 2 minutes de la haine. « Qu'est-ce que c'était ? » dit-il surpris. « Un rat. Je l'ai vu sortir son nez de bête des lambris. Il y a un trou en bas. Je lui ai fait une bonne frayeur de toute façon. » « Des rats. » murmura Winston. « Dans cette pièce. » « Ils sont partout, » dit Julia avec indifférence alors qu'elle s'allongeait à nouveau. « Nous avons les mêmes dans la cuisine du foyer. Certaines parties de Londres en sont remplies. Est-ce que tu sais qu'ils s'attaquent aux enfants ? Ou dans certaines rues, les femmes n'osent pas laisser un bébé tout seul 2 minutes. Ce sont les grands, gros brins. Et l'horrible, c'est que ces sales bêtes, toujours, tais-toi, » dit Winston les yeux fermés. Chérie, tu es devenue bien pâle, qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont les rats qui te donnent mal au cœur ? De toutes les horreurs du monde, un rat. Elle se pressa contre lui, enroula ses membres autour de lui comme pour le rassurer avec la chaleur de son corps. Il ne rouvrit pas les yeux immédiatement. Durant un long moment, il avait eu le sentiment de revivre un cauchemar qui se répétait de temps en temps tout au long de sa vie. C'était toujours le même. Il était devant un mur d'obscurité et de l'autre, il y avait quelque chose d'insupportable, quelque chose de trop terrible à affronter. Dans le rêve, son sentiment le plus profond était toujours une tromperie, car il savait en fait ce qui se trouvait derrière le mur des ténèbres. Il aurait même pu, d'un effort mortel, comme s'il arrachait un morceau de son propre cœur, tirer la chose en pleine lumière. Il se réveillait toujours sans avoir découvert ce que c'était. Mais d'une certaine manière, c'était lié à ce que Julia avait dit lorsqu'elle s'était interrompue. « Je suis désolé, » dit-il. « Ce n'est rien. Je n'aime pas les rats, c'est tout. »« Ne te tourmente pas, chérie. Ces sales brutes de rats n'entreront pas ici. Avant que nous partions, je vais boucher le trou avec un bout de toile à sac et la prochaine fois que nous viendrons, j'apporterai un peu de plâtre et je le fermerai proprement, tu verras. » Déjà l'instant de panique aveugle était à moitié oublié. Winston se sentait un peu honteux. Il s'est assis contre la tête de lit. Julia sortit du lit, enfila sa salopette et fit le café. L'odeur du café qui s'élevait de la casserole était si puissante et excitante qu'ils fermèrent la fenêtre, de peur qu'elle ne fût remarquée par quelqu'un du dehors, et qu'elle n'éveillât la curiosité. Ce qui était encore meilleur que le goût du café, c'était le velouté que lui donnait le sucre, une chose que Winston avait presque oubliée après des années de saccharine. Une main dans sa poche et un morceau de pain et de confiture dans l'autre, Julia se promenait dans la pièce, jetant un regard indifférent sur la bibliothèque, en indiquant la meilleure façon de réparer la table du portillon, en se plongeant dans le fauteuil en haillons pour voir s'il était confortable, et en examinant l'horloge aux 12 chiffres avec un amusement bienveillant. Elle apporta le presse-papier en verre sur le lit pour le regarder dans une meilleure lumière. Il lui prit des mains, fasciné comme toujours par l'aspect doux et translucide du verre.
« Qu'est-ce que c'est, à ton avis ?»
dit Julia. « Je ne pense pas que ce soit quoi que ce soit. Je veux dire, je ne pense pas que ce ne fût jamais utilisé. Et c'est ce qui me plaît. C'est un peu une partie de l'histoire qu'ils ont oublié de modifier. C'est un message d'il y a 100 ans, si l'on savait comment le lire.
Et ce tableau, là-haut ?»
Elle indiquait de la tête la gravure sur le mur en face d'elle. « Est-ce qu'il est vieux d'un siècle ?»«
Plus que cela. 2 siècles, peut-être. Il est absolument impossible aujourd'hui de découvrir l'âge de quoi que ce soit. »
Elle alla le voir.
« Voilà où cette bête a passé son nez, » dit-elle en donnant un coup de pied dans les lambris juste en dessous de la photo. « Quel est cet endroit ? Je l'ai déjà vu quelque part. »
« C'est une église. Ou du moins, ça l'était. » Son nom était l'église Saint-Clément. Le bout de rime que M. Charrington lui avait appris lui revint en tête. Et il ajouta, avec une certaine nostalgie, « Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. » À sa stupéfaction, elle répondit au vers par un vers. « Tu me dois 3 fartins, disent les cloches de Saint-Martin. »
« Quand m'auras-tu payé ?» disent les cloches du vieux Bellay.
Je ne me souviens pas de la suite, mais de toute façon, je me souviens qu'il finit par dire « Voici une bougie pour éclairer le lit, voici une machette pour te couper la tête. »
C'était comme les 2 moitiés d'un contre-sein, mais il devait y avoir une autre rime après les cloches du vieux Bellay. Peut-être pourrait-on l'obtenir de la mémoire de M. Charrington si elle était convenablement excitée.
« Qui t'a appris cela ? » dit-il.
« Mon grand-père. » Il me la chantait quand j'étais une petite fille. Il a été vaporisé quand j'avais 8 ans. En tout cas, il a disparu. Je me demandais ce que c'était qu'un citron. A-t-elle ajouté sans réfléchir. J'ai vu des oranges. C'est une sorte de fruit rond et jaune à la peau épaisse.
Je me souviens des citrons, déclara Winston. Ils étaient très communs dans les années 50. Ils étaient tellement acides qu'on avait les dents glacées rien qu'à les sentir.
« Je parie qu'il y a des insectes derrière cette photo, » dit Julia. « Je vais l'enlever et la nettoyer un jour. Je suppose qu'il est presque temps que nous partions. Je dois commencer à me démaquiller. Oh, quel ennui ! J'enlèverai le rouge à lèvres de ton visage après. »
Winston resta couché quelques minutes encore. La pièce s'assombrissait. Il se retourna vers la lumière et regarda fixement le presse-papier en verre. Il y avait en cet objet une telle profondeur. Il était pourtant presque aussi transparent que l'air. C'était comme si la surface du verre était une arche du ciel enfermant un monde minuscule avec son atmosphère complète. Il avait le sentiment qu'il pouvait y pénétrer, et qu'en fait, il était à l'intérieur, avec le lit en acajou et la table pliante et l'horloge, la gravure sur acier et le presse-papier lui-même. Le presse-papier était la pièce dans laquelle il se trouvait, et le corail était la vie de Julia et la sienne, fixée dans une sorte d'éternité au cœur du cristal.